Effectivement, le mérite de Régnier est très grand, dans la mesure d'abord où il rompt avec une attitude ordinaire vis-à-vis du populisme. C'est de dire non, on n'y touche pas, c'est soit trop délicat, soit trop repoussant, et n'allons pas plus loin en la matière. C'est une démarche qui tient un peu de la lâcheté intellectuelle. Et en tout cas, la démonstration de Régnier montre bien qu'il était important d'y aller voir de plus près. Le livre est tellement riche d'informations qu'il est impossible à résumer, mais vu à quelques distances, il en ressort que le populisme, si on veut le considérer dans sa situation actuelle et pas dans les acceptions qu'on lui accorde d'ordinaire, est un phénomène de fond du système politique comparable, par exemple, au socialisme, sauf que c'est en quelque sorte le contraire. Et si on veut le clarifier, la confrontation des deux aide beaucoup à le considérer avec un peu plus de limpidité. En gros, qu'est-ce que c'est que le socialisme ? C'est l'acquisition par une revendication politique émanée essentiellement d'une catégorie sociale particulière et massive en son temps, qui est celle de la classe ouvrière, d'obtenir par le biais de la politique classique, donc pas nécessairement, par exemple, par la force ou par la violence, mais par le jeu démocratique, des protections, des avantages, des garanties pour cette même classe qui était, à juste titre, à l'époque, déshéritée et en tout cas opprimée par des classes dominantes. Le populisme, si on veut le résumer grossièrement, c'est l'émanation d'une mentalité issue d'une autre catégorie sociale, sauf que cette catégorie sociale est le résultat de l'évolution de la première. C'est-à-dire que le socialisme ayant obtenu et atteint un grand nombre de ses objectifs, il a permis à un très grand nombre de citoyens de se voir préserver de, par exemple, la misère ou justement la privation matérielle par des garanties de salaire, des garanties de stabilité d'emploi, des aides sociales du type allocation familiale, allocation au chômage lorsque le chômage se présente, protection contre l'arbitraire de l'autorité professionnelle, défense de ses propres intérêts contre ceux qui les emploient au sens précis du terme. Or, il se trouve que cette nouvelle catégorie sociale, pour ne pas appeler couche sociale, est une catégorie aujourd'hui extrêmement répandue. Elle est même proportionnellement en augmentation comparée à la diminution, d'une part, de la catégorie des agriculteurs, qui, eux, ont diminué et fondu dans nos pays, d'abord proches, de manière absolument spectaculaire, de 30% en France il y a à peine une soixantaine d'années à approximativement 1 à 2% aujourd'hui. De la même manière qu'il y a une réduction de l'ensemble de la classe ouvrière qui est non moins négligeable du fait de la désindustrialisation et de la délocalisation et enfin de la globalisation. Au profit d'une classe intermédiaire d'employés, d'administratifs, d'indépendants, de petits commerçants, de patrons de PME, etc., qui composent aujourd'hui, on pourrait même dire, la grande masse dominante de la population. Or, cette masse-là, en gros, est dans un nouvel état d'inquiétude, plus du tout comparable à celui d'il y a un siècle dans les régions industrielles, En ce sens qu'elle est consciente de disposer d'un certain nombre d'avantages et de privilèges, mais tout aussi consciente que ces privilèges et ces avantages sont devenus de plus en plus précaires, vu la situation économique globale, vu la situation internationale, vu les grands flux migratoires. Cette réalité-là n'a malheureusement pas atteint les catégories, non pas nécessairement supérieures, ce qui va de soi, c'est-à-dire qu'il y a une bourgeoisie dominante, peut-être plus dominante que jamais, même si elle a également rétréci par le fait des regroupements économiques, mais même dans le milieu dit intellectuel, et en tout cas des intellectuels souvent à grand rayonnement, qu'on appelle intellectuels médiatiques, qui, eux, n'ont pas vu le bien fondé de certaines des inquiétudes de cette majorité-là, qu'on a appelée longtemps d'ailleurs la majorité silencieuse. C'est une majorité qui, c'est vrai, pendant très longtemps, n'a pas trouvé de canaux pour s'exprimer et a trouvé maintenant ces canaux dans des formations politiques qu'on regroupe grosso modo sous le titre général de populisme. Ce qu'il y a de remarquable dans le travail de Régnier, c'est qu'il définit de manière plus aiguë ce populisme en l'appelant populisme patrimonial. En ce sens que les populations en question ne se révoltent pas pour cause de privation, mais plutôt pour cause de défense et de protection de ce qu'on appelle communément les droits acquis. Ces droits acquis, ils veulent les prémunir, les préserver, parce qu'ils savent que toute une série de menaces pèsent sur leur problématique maintien. Et parmi ces menaces, il y en a une qui est facile à identifier, ne fût-ce que par son étrangeté, j'allais presque dire ethnique, qui sont les mouvements migratoires. Ce qui était indispensable dans le travail qu'a fait Régnier, c'était plutôt que de développer de grandes idées générales, comme je viens de le faire, de manière infiniment trop synthétique et finalement assez courte, c'est d'essayer de voir région par région, pays par pays, comment ça se passe. Alors, il est évident que l'on voit des cas de populisme depuis l'extrême nord de l'Europe jusqu'à son extrême sud, depuis l'Irlande jusque à la frontière de la Russie ou de la Biélorussie. Donc, c'est quelque chose d'extraordinairement répandu et qui, chaque fois, prend plus ou moins la couleur locale, où on voit que la sensibilité, par exemple, à l'immigration est bien entendu fonction de la présence réelle de cette immigration, même si dans la plupart des cas, elle est exagérée, c'est-à-dire que la publication des chiffres et des réels pourcentages de population immigrée que donne Régnier, même pays par pays, montre qu'entre la réalité scientifique du phénomène et l'ampleur qu'on lui accorde dans l'argumentation politique, il y a une marge. Mais cette marge, qui peut être parfois très importante, n'est pas seulement le résultat d'une espèce de fantasme collectif, mais surtout de la part des informateurs en général, ou de ceux qui sont censés être informer, une espèce de surdité. La surdité qui, par exemple, s'exprime dans ce qu'on appelle communément le politically correct, qui consiste à ne pas vouloir entendre. Il est évidemment beaucoup plus simple de s'accommoder d'une population immigrée de plus en plus abondante lorsqu'on vit dans un quartier plus ou moins, disons, cossu, comme on dit communément, d'une ville, que lorsqu'on est dans un quartier plus populaire. Lorsqu'on se trouve confronté en tant que commerçant, par exemple, à des concurrents que l'on considère comme déloyaux, par les salaires qu'ils pratiquent pour leur personnel, par leurs heures d'ouverture. Ça a été un des problèmes qui ont été peu à peu résolus, même par la grande distribution, au cours des 20 ou 30 dernières années. Et Régnier a bien le courage de dire qu'il y a, de la part des intellos, ou réputés tels, une espèce d'aveuglement, de tâche aveugle, qui a fait que le fossé s'est élargi. Il a fallu donc que les populismes trouvent des langages, trouvent des modes d'expression, et parfois muent, comme certaines espèces muent. Si on prend l'exemple le plus proche de nous, mais celui qui est le plus familier aux francophones belges, qui est celui du Front National en France, on voit une transformation de l'image du mouvement entre le Front National de Papa Le Pen et le Front National de Fifi Le Pen. La mutation allant parfois, dans le cas de Marine Le Pen, se donner les dehors d'une extrême permissivité, par exemple dans les mœurs, c'est-à-dire défendre ce que n'aurait jamais fait le père, le mariage homosexuel par exemple, du fait même qu'il est rejeté par l'islam. Donc il y a toute une série de données comme ça, très pointues, qui lorsque on les objective dans un cadre comme celui-là, deviennent lumineuses. Ce qui est très intéressant aussi dans le travail de Régnier, c'est que sa réflexion est à la fois extrêmement méticuleuse, très détaillée, quoiqu'elle présente une immense macula, une immense lacune à laquelle on reviendra. Et en même temps, il y a la recherche d'une espèce de logique, j'allais dire philosophique, qui revient à dire en fin de son ouvrage, par exemple, une espèce de nuance, une espèce de variation sur la fameuse phrase de Voltaire, pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance, c'est-à-dire comment pourrait-on admettre certains comportements par des gens qui eux-mêmes n'admettent pas la liberté du comportement. Donc comment est-il admissible dans une société libérale d'avoir des gens qui s'engouffrent dans les possibilités d'expression que cette société admet pour mieux la fragiliser de l'intérieur. Ce sont des vérités aveuglantes, mais auxquelles il arrive par le chemin non pas de la déclaration pure et simple, mais à la fois de l'observation, de la comparaison et de tentatives de synthèse. Ce qu'il y a de très remarquable aussi dans le livre, c'est qu'il pense énormément en termes démographiques. Il donne un chiffre, par exemple, étonnant, c'est qu'il dit qu'en 2015, c'est-à-dire à nos portes, eh bien, pour la première fois, le déficit démographique de l'Europe, vu dans son ensemble, sera franchement négatif. C'est-à-dire qu'il y aura plus de vieux qu'il n'y aura de jeunes. En tout cas, beaucoup moins de décès qu'il n'y a beaucoup moins de naissances qu'il n'y a de décès. C'est un chiffre extrêmement impressionnant qui mène évidemment à penser que très clairement, ces mouvements migratoires qui semblent tellement être au centre des préoccupations et des inquiétudes sont inéluctables et que la question n'est pas de les empêcher, n'est même pas nécessairement de les favoriser, mais de les réguler, ce qui suppose évidemment une meilleure connaissance des cultures, une meilleure manière de gérer le multiculturalisme, parce que ce multiculturalisme est à la fois, dans certains cas, une terrible complication de la vie sociale, mais peut aussi en être un très très grand enrichissement. Alors la chose étrange, et ça c'est pour nous, lecteurs en Belgique, de cet ouvrage vraiment bizarre, c'est qu'on a des descriptions qui nous semblent, nous en tout cas, formidablement éclairantes de ce qui s'est passé aux Pays-Bas, par exemple, autour du personnage de Pim Fortuyn, et puis de son relais par Geert Wilders, qu'il parle avec une grande information de ce qui s'est passé en Autriche, mais aussi de la Slovaquie, dont on avait vaguement entendu parler, mais qui ici, par le fait de la confrontation des multiples expériences, gagne énormément en visibilité. Et puis alors, pour ce qui est de la Belgique, il n'est question que de l'évolution du Vlaams Belang en Vlaams Blok, ou plus du Vlaams Blok en Vlaams Belang. Le nom de Bart De Wever n'est pas cité, et même la NVA n'est pas mentionnée. Alors, on a envie de lui dire dommage, parce que s'il s'était penché sur la question, il aurait pu s'en servir comme d'un modèle particulièrement illustratif de beaucoup de thèses qu'il avance. Comme par exemple, évidemment, les fondements du populisme en Italie entre nord et sud, région prospère, région moins prospère. Le rejet des transferts, chose que nous connaissons extrêmement bien en Belgique. Il fait le point, par exemple, sur l'importance énorme que peuvent avoir pour ces mouvements populistes les médias. Et là, encore une fois, s'il avait regardé la Belgique de plus près, il se serait aperçu que les risques entraînés par ces mouvements du temps du Vlaams Blok et du Vlaams Belang avaient été en grande partie réduits ou du moins relativisés par ce qu'on appelait le cordon sanitaire, et que dès le moment où il n'y a plus de cordon sanitaire, parce que la formation qui allait en grande partie siphonner l'électorat de ce parti allait échapper au cordon sanitaire en se gardant plutôt d'adopter des attitudes qui avaient forcé à ces mesures contre les ancêtres les plus récents, parce que c'était un vieux mouvement, du nationalisme flamand. Et au contraire, que c'est par une présence médiatique extrêmement forte que la NVA s'est rendue de plus en plus populaire. Il insiste par exemple sur un point intéressant lorsqu'il dit que curieusement en France, on a vu que les hommes politiques populistes, curieusement, sont bien souvent la cible des humoristes que les non-populistes. Et c'est vrai qu'on se souvient très bien des caricatures qui se sont succédées de Giscard en Mitterrand, même certainement à Chirac, et encore plus chez Sarkozy, alors qu'on ne voit pas encore aujourd'hui de caricatures virulentes ni de Marine Le Pen, ni de Mélenchon. Or, on pourrait évidemment dire que c'est parce qu'ils sont leurs caricatures elles-mêmes. Ce n'est pas tout à fait aussi subtil que ça. C'est surtout parce que le goût de la parodie ne peut venir animer des satiristes qu'à condition qu'ils puissent changer de registre et relativiser ces figures. Or, les figures en question qu'on vient de citer sont déjà suffisamment schématiques par elles-mêmes, pas ridicules, mais schématiques par elles-mêmes, pour échapper à ce type de traitement. Avec, encore une fois, une très grande exception, qui est celle de Bart De Wever, que la représentation caricaturale, très fréquente, aussi bien par des humoristes au nord qu'au sud du pays, n'a pas empêché d'augmenter son influence et sa présence dans le champ médiatique. On se trouve même devant un cas très particulier, puisqu'aujourd'hui le même personnage est arrivé à se donner une apparence carrément contraire à son apparence d'origine. D'autre part aussi, que l'on a affaire à quelqu'un qui a une capacité, non pas d'autodérision, mais une capacité de distance analytique qui fait illusion, c'est-à-dire qui est considérée comme une attitude d'intellectuel. Intellectuel dévoyé, mais intellectuel tout de même. Donc, voilà un livre extrêmement utile, je crois, plein d'enseignements, avec des perspectives extraordinaires, parce qu'il termine par une espèce de vision d'une espèce de très grande Europe qui déborderait la Méditerranée par le sud et même par l'est. Enfin, c'est une vision un peu utopiste, mais séduisante. Extraordinairement bien documentée, mais je le répète, mais ayant en son milieu une espèce de tache aveugle. Et cette tache aveugle, c'est forcément uniquement en Belgique qu'on pouvait la détecter. Mais encore une fois, soyons bons joueurs, ça n'empêche qu'on ait affaire à un livre qui a obtenu beaucoup de prix en tant que livre politique et qu'il ne les avait pas volés.